Martine, merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bien évidemment, une très très bonne journée. Bonjour à chacun d'entre vous et merci d'être avec moi sur le 104.3 FM. Alors figurez-vous que c'est aujourd'hui la journée mondiale du handicap, mais c'est aussi la journée mondiale de la poste. Chaque année, la journée mondiale de la poste est célébrée le 9 octobre, jour anniversaire de la création de l'Union postale universelle à Berne, capitale de la Suisse en 1874. Ce jour a été déclaré journée mondiale de la poste par une décision prise lors du congrès de Tokyo. Et depuis cette date, eh bien, les pays du monde entier célèbrent ensemble et d'une année à l'autre cet événement.
J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être. Arrivé par erreur, maladresse de facteur, aspergé de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i. Courbe manuscrite, comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe. orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche, je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
Renan Luce, et oui, et depuis justement à cause de cette journée de la poste, et bien depuis 35 ans en collaboration avec l'UNESCO est organisé un concours international de composition épistolaire destiné aux jeunes. Alors la plupart des postes participantes profitent de la journée mondiale de la poste pour remettre leur récompense aux lauréats du concours, mais l'histoire ne dit pas si les SMS sont admis ainsi que les fautes d'orthographe. Alors,
vos plus belles émotions.
Vos plus belles émotions.
Donc, c'était Renan Luce. Alors, l'héritage empoisonné des industries sera aujourd'hui le thème de notre rubrique « Saletant sur la planète ». En effet, la liste des avatars d'un siècle d'histoire industrielle concerne de nos jours l'ensemble du bassin minier. Alors aujourd'hui, nous nous pencherons sur le cas de Metal Europe avec Bruno Adolfi, président pour l'intérêt général des Évinois, PIGE, qui nous plantera le décor. En effet, Metal Europe est un dossier très lourd, et afin de le traiter de façon assez complète, eh bien Bruno Adolfi nous rappellera aujourd'hui le passé de cette filiale du groupe français Metal Europe, spécialisée dans la production, la transformation et la valorisation des métaux non ferreux tels que le zinc, le plomb ou les métaux spéciaux. Alors, Metal Europe s'est fait connaître lors de la liquidation en mars 2003 de sa filiale Metal Europe Nord, qui exploitait une fonderie à Noyelles-Godault. Une longue polémique entoura le licenciement des 830 salariés et l'abandon d'un site considéré comme le plus pollué de France. Et puis, pour notre rubrique Jardiner autrement, nous accueillons Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Au sommaire, comment faire une jardinière d'automne, et puis actuellement, que faut-il planter dans un jardin, et enfin, bien sûr, l'astuce du jour pour jardiner autrement, sans produits phytosanitaires, bien sûr. Et enfin, pour terminer, nous aborderons un sujet qui vous concerne tous, l'installation des nouveaux compteurs Linky. Une enquête a été lancée par le magazine UFC Que Choisir, et sur plus de 2000 répondants, il y a énormément de mécontents. Alors d'autre part, des collectifs se sont formés pour dénoncer cette installation qu'ils traitent d'aberration économique et écologique. Nous essaierons d'y voir plus clair avec Pierre Rose, qui est militant. Mais avant d'aborder les problèmes sérieux, bien on va se dire que tout va bien, tutto va bene, comme le chante Baz Baz.
« gens parlent. N'écoute pas ce que les gens disent. Mange ma bouche, avale mes mots. Restons là, ne bougeons pas. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, dans le creux de tes mains, je me sens bien. Ah, si bien. Lèche-moi touche, coule au fond de moi. Plus je deviens fou, moins je deviens mou. Tu es moi, je suis bien en toi. Qu'est-ce qu'il se passe qui fait que l'on ne se lasse? Ton corps et mon corps ont pris le droit de se dire: tu es moi, je suis bien en toi. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, dans le creux de tes mains.
Baz, et oui, aujourd'hui tout va bien, on se le dit, il y a du soleil, alors en effet tout va bien. Alors l'enquête de cette semaine dans l'air du temps, selon une nouvelle étude de l'université de Pennsylvanie, figurez-vous que les chauves sont plus séduisants. Alors selon le directeur de l'étude, n'importe qui peut être sûr de lui avec une belle chevelure sur la tête, mais un chauve qui a l'air sûr de lui, cela montre un tempérament d'exception. Plutôt que de dépenser des milliards chaque année à essayer de freiner ou d'inverser la calvitie, le conseil contre-intuitif qui ressort de cette étude est que les hommes qui perdent leurs cheveux devraient se raser la tête finalement.
Sans vouloir me vanter, je suis un mec super gâté. Car en matière d'amour, ça ne marche pas, ça court. Je sais pas ce qui les attire, mais c'est mieux que si c'était pire. Comment vous expliquer, je les fais toutes craquer. Je suis pas vraiment beau et pas super costaud. Je ressens pas à Brando ni à Jean-Paul Belmondo. Oui, mais toutes, oh oui, toutes, elles sont toutes folles de moi. Je suis l'idole, le roi. Elles s'arrachent ma chemise, elles me font porter les bis, c'est comme ça. Moi j'aime bien. Toutes folles de moi, je les mets toutes dans des mois. Elles m'appellent mon chéri, elles me font des guilis, c'est comme ça. Et c'est bien. Je suis plutôt le genre timide et même un peu candide. Mais elle me trouve tout mimi avec mon front dégarni. Les jeunes filles et leurs mamans s'écrient en me regardant: oh, ce qu'il est trop mignon, il est vraiment trop. Non, je suis pas Don Juan et pas le prince charmant. Je ressemble pas à Tarzan et j'ai même pas d'argent. Oui, mais tu...
est folle de lui, il s'appelle Jeannot avec un accent circonflexe sur le haut. Oui, il n'a plus de cheveux sur la tête, mais il a un accent circonflexe sur le haut. Allez, sans transition, sale temps sur la planète.
Sale temps sur la planète. Oh, le drôle, de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. La liste des avatars d'un siècle d'histoire industrielle concernant toute cette région est très longue. Souvenez-vous, le 13 février dernier, avec Jean-Louis Ouattet, nous avions longuement parlé de ces terres contaminées au PCB à Blaringhem, ce qui avait eu pour conséquence l'abattage d'un troupeau de vaches. La région Nord-Pas-de-Calais est en effet marquée par une histoire industrielle très lourde, avec des séquelles considérables sur et dans les sols, à loin Dunkerque, Boulogne, nous pourrions en citer encore et encore. Mais aujourd'hui et la semaine prochaine, nous nous penchons sur les alentours de Metal Europe Nord, Noyelles-Godault, Le Forêt, Courcelles-lès-Lens, Auby, Dourges, Rovarendin, Flers-en-Escrebieux, Austricourt, Rimbaucourt et Évin-Malmaison, ville dans laquelle s'est formée l'association PIGE pour l'intérêt général des Évinois, dont le président est Bruno Adolfi. Bonjour Bruno.
Bonjour Martine.
Alors,
bonjour les auditeurs.
Contrairement à ce que nous pourrions croire, eh bien, tout le monde ne sait pas, Bruno, que Metal Europe est le site le plus pollué de France. Alors vous allez donc nous rappeler ces 100 années de production et pourquoi cette pollution.
D'accord, bonjour à tous. Donc l'origine de Metal Europe remonte à 1894, où une première installation d'une usine de fonderie de zinc et de four à plomb à Noyelles-Godault était créée, puis fut détruite pendant la guerre, reconstruite en 1920 par Peñarroya, avec un nom qui est connu pour certains d'entre vous, et qui devient l'une des plus grosses producteurs mondiaux de zinc et de plomb. Et en 88, on crée donc Metal Europe SA Nord à Noyelles-Godault, sur lequel la usine était à Noyelles-Godault et 60 000 personnes concernées habitent autour de cette usine. Donc, elle fonctionnait depuis 1894. C'était une fonderie de plomb et de zinc la plus importante d'Europe. Et jusqu'en dans les années 80, l'usine a fonctionné sans aucune précaution environnementale. Les cheminées rejetaient dans l'air du gaz sulfureux, des poussières de plomb, de zinc et de cadmium, tandis que les égouts déversaient leurs rejets dans l'eau de la dalle canalisée. Quelques chiffres, hein, simplement pour vous rappeler qu'au niveau des rejets, en 1981, les rejets étaient considérables. En plomb, 300 kilos par jour, soit 110 tonnes par an. En zinc, c'était 640 kilos par jour, soit 320 tonnes par an. Et du cadmium, n'en parlons pas, c'était également 31 tonnes par an. Donc il faut noter qu'avant 1985, aucune mesure de rejet liquide n'était réalisable avec précision, car les émissions d'usine étaient nombreux et mal contrôlables. Voilà un petit peu la situation aujourd'hui, qui fait que c'est toutes ces matières hein, qui se déposaient sur les sols environnants, entraînant une pollution des sols d'une ampleur singulière. Depuis plus de 20 ans, la DRIR fait effectuer des mesures de campagne de prélèvement de sols donc autour des usines et sur les terrains autour, justement situés autour de cette usine, et ont permis de cibler des zones, disons, concentration en plomb, cadmium, dans un premier temps, et tous les autres métaux qui peuvent être effectivement rejetés par cette usine. Ces métaux se concentrent dans des couches superficielles du sol, donc de 0 à 40 cm, ce qui fait exposer la population aux problèmes au niveau de l'inhalation par les voies multiples, inhalation d'air, ingestion des poussières déposées sur le sol et ingestion d'aliments ou d'eau contenant tous ces métaux. Voilà un petit peu, brosser rapidement, la situation d'une usine qui a pollué maintenant depuis plus de 100 ans.
Et puis Bruno, durant toute cette période, eh bien, l'usine a aussi connu un certain nombre d'accidents.
Alors malheureusement, des accidents ont été dénombrés. On a dénombré à peu près 3-4 accidents. En 89, il y a eu une explosion du dépôt de soufre, hein, malheureusement un nuage irritant non toxique. Hein, et on a dénombré 3 blessés au niveau de ces accidents. En 90, une projection de soufre à 400 degrés tue malheureusement une personne. Et il y en a eu 5 de blessés. En 93, c'est la colonne de raffinage zinc qui explose et on dénombre malheureusement 10 morts. Et en 94, une deuxième explosion de colonne de raffinage où on dénombre malheureusement également un mort et de nombreux blessés. À l'issue même de l'enquête sur ces deux accidents, les deux dirigeants de Metal Europe ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Béthune pour insuffisance de mesures de protection. Donc bien entendu, ces accidents ont été source de pollution chronique et accidentelle par le plomb, le zinc, l'arsenic, l'antimoine, enfin tous ces métaux qui pouvaient malheureusement retomber sur l'ensemble des terrains de la population.
Bien sûr. Et alors, donc, la fermeture de Metal Europe a eu lieu en mars 2003, hein, faisant de cette entreprise le symbole d'une industrie régionale déchue. Alors, il faut savoir quand même que cette usine métallurgique laisse pour tout héritage 1000 ans de mesures de survie. La pollution des sols est en effet très grande, comme vous venez de le dire. Alors, il faut quelques chiffres, hein, 414 déchets toxiques ont été repérés sur le site et 9000 tonnes de déchets industriels dangereux ont été localisés. Finalement, Bruno, c'est Fukushima ?
Ben, c'est quasiment Fukushima, hein. Fukushima sur malheureusement l'ensemble des secteurs et comme vous aviez cité tout à l'heure, les communes environnantes au niveau de cette usine. Il y a 35 hectares hein, du site qu'il a fallu dépolluer parce que malheureusement la loi du pollueur-payeur n'a pas pu être mise en place à cause d'un responsable défaillant, mais là on pourra en parler également, plus de 100 000 tonnes de gravats, d'amiante, de déchets dangereux qu'il a fallu démanteler au niveau de cette usine. C'est quelque chose de faramineux hein, au niveau de cette dépollution du site. Hein. On a trouvé du pyralène, hein, le niveau du sol a été relevé quasiment d'un mètre, hein, de façon à pouvoir cacher hein, tous ces problèmes au niveau de la pollution dans le sol. Cette dépollution du site aura coûté 35 millions d'euros ben, qui ont été payés par l'État, par les collectivités, du fait de l'absence de ce pollueur défaillant. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a dû enterrer, hein, il y a un petit terri, hein, je ne sais pas si vous promenez dans ce secteur, il y a un petit terri à côté du terri existant, où il a fallu faire un sarcophage pour enterrer à peu près 190 000 tonnes de déchets tellement dangereux qu'on ne savait pas où trop les recycler.
Tout à fait.
Voilà également aussi, si vous voulez, comment la dépollution s'est faite. Hein, par Cita Agora, qui est maintenant maître de lieu au niveau de l'activité remplacée.
Et puis je suppose, Bruno Adolfi, que les eaux souterraines sont elles aussi contaminées ?
Alors, les eaux souterraines, ben oui, comme je vous disais en introduction, malheureusement, oui. Jusqu'en 85, rien n'était fait au niveau de ces contrôles d'eau. Il a fallu malheureusement que, et heureusement pour la population, que tous les rejets étaient libres, non sérieusement contrôlés, hein, parce qu'il n'y avait pas trop de réglementation jusqu'aux années 80, ou au cours duquel ont été instaurées quand même des directives européennes. Et il a fallu l'intervention à l'époque de Nord Nature Environnement pour alerter les pouvoirs publics, pour dire temps de faire quelque chose au niveau de la quantité de rejets qui était fait dans les eaux. Donc ça a été fait, mais suffisamment trop tard. Imaginez-vous les sédiments, la pollution des sédiments qui sont au niveau de la Deule, les bateaux quand ils passent. On imagine le canal Seine-Nord s'il sera créé, imaginez les travaux, on va remuer des tonnes et des tonnes de sédiments pollués. Et où, s'il fallait les enlever, comment stocker ces sédiments à traiter ? Par qui, où, imaginez-vous le travail et le coût indirect que l'usine va continuer à peser sur les habitants, la santé et malheureusement le portefeuille aussi.
Bien sûr. Alors justement, Bruno Adolfi, où en est-on à présent ? Vous avez fait là le point, mais c'est vrai que lors de l'abattage de la dernière cheminée, la presse relatait que l'ex-Metal Europe devait se métamorphoser dans les mois suivants pour devenir un des plus grands écopôles du pays. Tout devait être recyclé, déchets électroniques et électriques, voitures, gravats, palettes, etc., etc. Et puis, les sols, on n'en parlait pas, hein.
Du tout, non. On a, à partir du moment où le site a été dépollué, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire on a caché, hein, et on a mis en dessous de terre propre toutes les saloperies qu'on ne pouvait pas recycler, je me souviens de l'ensemble des autorités publiques dire qu'on va faire un poumon vert hein, sur l'ancien site de Metal Europe. La pollution s'est terminée, on ne peut en entendre parler. Hein, il y avait ce qu'on appelle la trame verte, c'est-à-dire un passage intéressant au niveau de cavaliers, de piétons pour se promener et enfin respirer l'air pur. Bon, aujourd'hui, on a affaire, si vous voulez, à un site, un écopôle de récupération et de valorisation en tout genre, du déchet de bois, du traitement de déchets hospitaliers, de transformation de palettes, du démantèlement de véhicules, qui n'existe plus. Hein. Souvenez-vous, il y avait eu une activité de récupération des des voitures qui étaient revendues au niveau des primes jupées, jupettes, je ne sais plus comment on appelait ça exactement, mais les voitures d'occasion étaient sur le site et dénoncées de façon à pouvoir être revendues par pièce. Bon, cette activité-là n'existe plus. On nous a fait croire à des créations de milliers d'emplois. On en est loin, hein, de ce recyclage au niveau du site. Donc, c'est toujours des paroles et des paroles des élus bien pour sûr. En arriver effectivement aujourd'hui à avoir une récupération en tout genre. Où il faut de nouveau être très vigilant concernant les retombées un petit peu de ces activités.
Tout à fait. Alors voilà, Bruno Adolfi, l'état des lieux est fait. Bon, c'est pas très réjouissant. Alors vous non. habitez Vin-Malmaison, un village situé sur les bords de la Deule et dont l'histoire fut bouleversée par la découverte du charbon, mais pas que, car tous ses habitants ont subi de plein fouet toute la pollution engendrée par Métal Europe, n'est-ce pas ? Toute cette pollution que vous venez de décrire. Alors vous et quelques autres, vous vous êtes regroupés en association, la PIGE, et vous êtes fermement décidés à vous faire entendre auprès de l'État. Alors, avec vous, la semaine prochaine, nous ferons le point sur les différents chantiers engagés et nous parlerons donc toujours avec vous, Bruno Adolfi, de votre bataille.
D'accord, oui. Ben, face, si vous voulez, hein, à la situation hein, où dernièrement il a fallu attendre qu'en 97, les pouvoirs publics par autorité préfectorale impose un plan un projet d'intérêt général au niveau de l'ensemble des communes, hein, chose qui avait été proposée par le ministère de l'Environnement en 85, mais les représentants politiques locaux refusaient de faire une croix sur l'argent de la taxe professionnelle et les centaines d'emplois. Et à l'époque, malheur à qui oserait malmener l'usine, quand bien même elle rejetait des tonnes de saleté, il fallait faire avec. Donc il a fallu attendre 97 pour voir mis en place, on a ressorti le dossier du projet d'intérêt général du bureau du préfet, et on a fait une espèce de cartographie rapide avec des vieilles analyses pour dire vous êtes pollué ici, à côté ça ne l'est pas, imaginez-vous la situation qu'on a pu découvrir.
Bien sûr.
Donc ce projet d'intérêt général, si vous voulez, renouvelé tous les 3 ans, hein, et le dernier en date, c'était en 2014, où on apprend que, imaginez-vous, 11 ans après la fermeture de l'usine, les analyses de sol établissaient qu'il y avait une pollution encore plus importante, même l'usine fermée. Donc c'est à partir de 2014 où on a pris les choses en main d'une façon définitive, de façon à dire stop hein, aux contraintes de servitude qui nous étaient imposées par la préfecture, et de créer cette association qui regroupe aujourd'hui plus de 200 adhérents, et j'insiste au niveau des habitants qui nous écoutent de bien vouloir nous rejoindre au plus vite dans la mesure où on a maintenant quelques satisfactions de façon à avoir des avancées. Mais il y a encore du travail à faire. Voilà, si vous voulez bien qu'on parle de l'association, ce sera avec plaisir la semaine prochaine.
Tout à fait, donc je vous dis merci à vous et donc à lundi prochain. Et parce qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup à dire. À lundi Bruno.
Merci Martine, au revoir, bonne journée à tous.
Et très bonne semaine à vous.
Merci.
On appartient à la terre d'abord. Naître près d'une rivière, d'un port, au pied d'une montagne ou en pleine campagne, c'est pas le même sang qui coule dans nos corps. On appartient aux saisons d'abord, arrivé quand la nature s'endort ou quand elle se réveille, non ce n'est pas pareil, on est un peu plus faible ou bien un peu plus fort. On appartient à la femme d'abord, quel que soit notre rang, notre bord, notaire ou poète, avec celles qui nous font naître, l'amour tisse des fils d'or. On appartient à la musique d'abord, celle que joue la vie sur les mêmes accords. Qu'une feuille tombe, qu'un animal succombe, que je m'en désintéresse, j'ai tort. On appartient au temps qui passe d'abord, qui nous tient prisonniers de nos corps. Mais nous vivrons dans la mémoire de ceux qui viendront plus tard, pour peu qu'ils pensent à nous encore. On appartient aux planètes d'abord, leur bing-bang résonne dans ma tête encore. Sur un tel, une telle, elles mettent leur grain de sel, comme on fait notre berceau d'étoiles, on dort.
Eh oui, comme le chantait Georges Chelon, ben oui, c'est l'automne, les feuilles tombent.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre, 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement ? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Il n'existe aucune autre porte vers le savoir que celle ouverte par la nature, aucune autre vérité que la vérité découverte dans la nature. Une pensée de Luther Burbank, une citation qui plaît à Bertrand Trinel. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour à tous les auditeurs de Radio Plus.
Alors, ravi vraiment de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Et je rappelle qu'à ce titre, vous êtes l'organisateur de la fête de la tomate qui se tient à Averskerke chaque année en septembre. Mais vous êtes aussi le créateur du jardin de l'ermite à Averskerke avec son verger, son rucher et son potager pédagogique et dorénavant. Et dans la mesure, bien sûr, de vos possibilités, Bertrand, eh bien, vous serez avec nous chaque semaine pour quelques minutes consacrées au jardinage bio et vous nous donnerez quelques conseils pour tout simplement jardiner autrement. Alors Bertrand, un dicton dit à la Saint-Denis ramasse les fruits. Vous pouvez peut-être nous le commenter. Quels fruits actuellement ?
Alors oui, à la Saint-Denis, ben, c'est aujourd'hui. Donc c'est vrai que le dicton de nos anciens sont vraiment de bons points de repère. C'est le moment de terminer la récolte des pommes et des poires. Et bien sûr des raisins, si vous en avez encore, parce qu'en serre, on a encore des raisins qui mûrissent, et il va falloir les récolter avant les geler. On peut également, disons que pour les kiwis, on peut encore attendre un petit peu. On les cueillera juste après les premières gelées, à moins qu'on ait les premières gelées blanches, à moins qu'on ait une forte gelée auparavant. Alors la Kinidia, c'est l'arbuste qui produit les kiwis, vient très bien dans notre région. Moi, j'ai déjà récolté plus de 150 kilos de kiwis sur un seul pied. Donc, un conseil. Préférez planter un pied femelle et un pied mâle plutôt qu'un plant auto-fertile. Le plant auto-fertile va à la longue redevenir stérile, ou soit mâle, ou soit seulement femelle. Hein. Et le pied femelle, moi, je vous conseillerais dans notre région Eward. Alors, il y a aussi un autre fruit qu'on peut cueillir et qu'on voit pas souvent dans notre région, c'est les kakis, qui sont le fruit du plaquemunier. Donc, vous pouvez les cueillir en ce moment. Alors, vous les voyez souvent sur les étals en décembre, hein, aux environs de Noël, mais ça pousse très bien dans notre région. Donc vous pouvez les cueillir en ce moment, à moins que les oiseaux soient déjà passés, parce que ça, les oiseaux adorent. Et ben moi, je vous souhaite de très bonnes récoltes.
Alors, un peu de brume le matin, de la fraîcheur, des jours plus courts, ce sont les signes de l'automne qui commencent à être bien présents. Et pour continuer à profiter des fleurs, alors pourquoi ne pas faire des jardinières d'automne ? Ce petit jardin dont on profite en regardant par la fenêtre, n'est-ce pas Bertrand ?
Oui, tout à fait Martine. Alors, lorsque le printemps arrive, beaucoup de personnes font des jardinières qui vont fleurir tout l'été. Hein. Mais c'est beaucoup moins vrai à l'automne. Peu de gens font des jardinières d'automne. Pourtant, on peut profiter durant toute la saison hivernale de ces belles jardinières. Alors, en premier lieu, il faut toujours choisir le substrat. Alors, le substrat, c'est un bon terreau, un terreau de qualité. Alors, je vais insister là-dessus parce que quand vous achetez un terreau de mauvaise qualité, vous aurez de très mauvais résultats. Donc, il faut un terreau très bonne qualité avec de l'argile et du terracotem. Donc c'est indispensable si vous voulez avoir de très belles jardinières. Alors, qu'est-ce qu'on va planter dans les jardinières ? Il y a un choix immense possible dans les jardineries, et chacun d'entre vous pourra trouver personnalisé ces jardinières. Je vais vous donner quelques idées, par exemple un petit conifère qui va donner un peu de hauteur, des œchères, parce que des œchères, il y a des tas de feuillages maintenant multicolores, hein, pour mettre la couleur caramel, les couleurs dorées qui vont égayer, qui vont... éclairer la jardinière. Il y a aussi des bruyères, des cyclamènes, des primes verts. Pourquoi pas mettre un lierre dans une jardinière, un petit lierre qui va parfois panacher, parfois vert ou autre, mais qui en retombant va habiller la jardinière. Donc, alors, pour les jardinières, attention, il faut surtout ne pas trop arroser l'hiver. hein, parce que par temps de gel, les plantes ne vont pas supporter. Et l'hiver, les plantes ont beaucoup moins besoin d'eau. Hein. Mmh. Par rapport à l'été, l'été, c'est vrai qu'il fait chaud et tout ça, ça s'évapore. Alors, il faut surtout aussi ne pas oublier de supprimer les feuilles fanées régulièrement. Une chose que je voudrais ajouter, vous pouvez également mettre des bulbes, des jonquilles, des crocus, des jacinthes, etc. dans vos jardinières. Ça donnera des fleurs au printemps. Voilà.
Alors, et puis Bertrand, du côté légumes, il paraît que c'est le bon moment pour planter l'ail.
Oui, effectivement, en octobre, c'est le moment de planter l'ail d'hiver, donc violet ou blanc. À noter que l'ail éléphant se plante également en octobre. Je ne sais pas si vous connaissez l'ail éléphant, c'est un ail qui est vraiment énorme. Hein, une gousse d'ail éléphant est aussi grosse qu'une tête d'ail normale. Hein. Donc tous ces ails, tous ces os ne craignent pas le gel, mais plutôt l'excès d'humidité. Donc on peut les planter sur des buttes, dans une terre normale. Hein, mais il faut savoir que l'ail va venir très bien dans une terre argileuse, même s'il a horreur, mais il a horreur d'une fumure fraîche. Hein, donc voilà. Vous pouvez enrichir la terre, par contre, avec un engrais organique riche en potasse. Hein, et une chose que j'ai pas testée, il faudrait peut-être tester, c'est que les anciens les plantaient toujours quelques jours avant la pleine lune pour avoir une meilleure récolte. Donc c'est peut-être à essayer, à voir un peu, et puis vous nous direz à l'antenne ce que ça donnait.
Alors, jardiner autrement, justement, ça c'est votre leitmotiv. Quelle astuce allez-vous nous donner aujourd'hui? Alors vous allez peut-être nous dire qu'à cette époque de l'année, eh bien on peut penser à adopter quelques poules.
Oui, alors, oui, effectivement. Donc juste un petit rappel à tous nos amis jardiniers. Jardiner autrement, c'est jardiner sans pesticides. Et c'est indispensable pour notre santé et pour celle de la nature. Donc il y a une loi Labbé qui est passée, qui va interdire au 1er janvier 2019 l'utilisation des pesticides par des particuliers. Donc ils ne seront même plus en vente dans les magasins. Donc il faudra bien penser à faire autrement. Donc jardiner autrement. Nous, dans notre jardin associatif, nous n'avons jamais utilisé de pesticides et tout va bien. Alors bien sûr, on utilise quelques purins naturels et tout ça, qui suffisent largement, mais bon, je pense qu'on reviendra là-dessus sur la loi Labbé dans une prochaine émission. Mmh. Alors, les poules, oui, c'est super. Donc les poules, elles nous offrent des œufs, elles produisent du fumier pour le tas de compost, les enfants adorent les regarder, et à l'automne, on peut les laisser courir librement dans le jardin, et notamment dans le potager. Hein. Donc elles vont se délecter de larves, de limaces, etc. Donc le jardin sera débarrassé de toutes sortes d'indésirables. Donc les poules sont vraiment des bons amis pour le jardinier.
Voilà, et ouais. Puis justement, elles peuvent remplacer très très bien les produits phytosanitaires qui sont exactement. Là pour justement, disons, éliminer tout ce dont vous venez de nous parler.
Exactement.
Alors, attendez, il y a des interférences sur la ligne. Vous ne quittez pas, Bertrand, vous ne quittez pas. Alors, dites-moi, Bertrand, justement, du côté de PJH, quelles nouvelles?
Alors, PJH, des paysages, des jardins et des hommes. C'est une association de jardinage, hein, donc on a des multiples activités. Hein. On a jardin d'agrément, on fait un potager, un verger, on a le rucher, on fait stage de grève, des stages d'art floral, on fait des formations d'apiculture, des conseils, des trucs et astuces. Voilà, on a une petite parution mensuelle pour nos adhérents. Et prochainement, donc la prochaine sortie que nous ferons, on va tenir un stand le dimanche 22 octobre à la fête des jardiniers de Barlin. Donc je serais très heureux d'échanger avec des auditeurs de Radio Plus, d'expliquer plus amplement ce qu'on fait dans l'association et puis de répondre aux questions éventuelles que les auditeurs pourront nous poser. Voilà, alors peut-être au 22 octobre à Barlin.
Eh bien Bertrand, merci, je vous dis à la semaine prochaine.
Eh bien merci Martine, et ce sera avec plaisir.
Merci Bertrand, et très très bonne semaine à vous.
Merci, à vous également.
Pourquoi pas qu'on s'assoie sous un pommier à pommes, bien assis, bien assis, on attend qu'elle tombe. Pourquoi pas qu'on boira de l'eau de la rivière dans le creux de ses doigts, dans le lit de la pierre. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm. J'ai besoin de personne quand ma pomme à ton bras. Pourquoi pas qu'on ira labourer dans la neige? Quand la neige affondra, il y aura le blé qui lève. Je prendrai mon fusil pour chasser du chemin la mauvaise compagnie des chasseurs et des chiens. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm. J'ai besoin de personne quand mon blé pointera.
Gilbert Bécaud et son pommier à pommes. Alors, ils vont progressivement équiper 35 millions de foyers et font d'ores et déjà beaucoup parler d'eux. Hein, le déploiement du compteur Linky suscite de plus en plus de questions, voire des inquiétudes. Entre les messages contradictoires des professionnels et des anti-Linky, il est bien difficile de s'y retrouver. Alors l'UFC Que Choisir fait le point avec un vrai faux réactualisé qui répond aux préoccupations d'aujourd'hui et dénonce dans son numéro d'octobre la scandaleuse impunité d'Enedis. Pour traiter ce sujet avec nous aujourd'hui, Pierre Rose, membre du collectif Info 62, association Loi 1901. À savoir que ce collectif, mais Pierre Rose vous le redira, vous invite à une réunion d'information le vendredi 13 octobre à 18h30. Alors bien entendu, si vous avez déjà reçu un courrier annonçant l'arrivée de ce nouveau compteur, n'hésitez pas, car comme vous allez le constater, le bilan des installations déjà effectuées est plutôt désastreux. Pierre Rose, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors on explique d'abord ce qu'est ce nouveau compteur Linky et pourquoi Enedis veut l'installer dans chaque foyer, à savoir qu'au départ il s'agit d'une réglementation.
Oui, la directive européenne concernant Linky est souvent présentée comme le texte qui rendrait obligatoire l'implantation des compteurs communicants. En fait, cette directive impose seulement la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité. Alors qu'on sait que les anciens compteurs, les actuels compteurs, plutôt répondent déjà à cet objectif. Il faut bien préciser le monde de nouveau avec Linky. Enedis, ex-RDF, présente Linky comme le premier maillon d'un système performant pour une gestion optimale de la production et de la distribution d'électricité. Cette optimisation passe par le remplacement de l'homme par l'ordinateur et nécessite le collectage d'un grand nombre d'informations. Cette recherche de rationalisation nous prive toujours plus de notre pouvoir de décision sur tout ce qui touche à notre quotidien. Ainsi, notre vie serait de plus en plus tributaire des calculs effectués par des logiciels. Il faut aussi savoir que le compteur Linky transmet par courant porteur en ligne, CPL, les informations recueillies jusqu'au centre de supervision et d'Enedis. Linky n'est donc pas qu'un compteur, il collecte et il traite des données. Le compteur actuel ne fait que compter. Avec Linky, on a donc affaire à un nouveau produit. Notons au passage que ce principe communicant va être étendu, si l'on ne s'y oppose pas, au compteur de gaz et au compteur d'eau. Alors les États membres de l'Europe sont libres de fixer les moyens de cette participation à cette directive. Trois pays européens, la Belgique, la République tchèque, la Lituanie, ont renoncé à créer un réseau de compteurs intelligents. L'Allemagne renonce à la généralisation, l'Autriche n'oblige pas. En France, Enedis s'impose. Il faut signaler que le président du directoire d'Enedis, Philippe Monloubou, avait lors d'une audition à l'Assemblée nationale en février 2016, indiqué que la pose du nouveau compteur ne serait pas obligatoire. Depuis, il a changé d'avis.
Oui, bien sûr. Alors, Pierre-Rose, la distribution d'électricité est un service public et le gestionnaire de réseau, en l'occurrence Enedis, est donc chargé de l'exécution de ce service public qu'il doit assurer dans le respect de la loi et du règlement. Or, la loi impose de mettre en œuvre des dispositifs de comptage. Alors, je suppose donc que nous sommes obligés d'accepter la pose de ce compteur et qu'en plus, Enedis doit avoir, on va dire, hein, entre guillemets, tous les arguments pour nous l'installer.
Ben, on va commencer par décortiquer l'argumentaire d'Enedis qui se trouve sur la lettre d'indication qu'ils avaient passée. À la question « Ce changement de compteur est-il obligatoire ?» Enedis répond « Oui, il est indispensable et encadré par la loi. » Alors tout est dit dans cette réponse. Il est dit que c'est indispensable, donc ce n'est pas obligatoire. Par ailleurs, tout objet connecté ne peut nous être imposé. C'est inscrit dans la Constitution. La Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de notre Constitution, dit ceci dans l'article 12. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Donc l'obligation du Linky est anticonstitutionnelle.
D'accord. Alors, bon, Pierre-Rose, admettons, si le compteur se trouve accessible dans, depuis la voie publique sans nécessité de s'introduire dans notre domicile, eh bien, les agents d'Enedis peuvent procéder à son changement sans notre accord, finalement.
Bah oui, mais c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que lorsqu'un contrat pour avoir de l'électricité est signé, il y a deux signatures, celle de l'utilisateur et celle d'EDF. Maintenant, on veut nous imposer un compteur d'une autre nature sans que l'on ait besoin de signer. Il y a tout de même un problème, à tout le moins juridique. Alors, comment contrer ces méthodes de voyous de la part d'Enedis et des sous-traitants? Bah, il y a un jugement du tribunal qui peut nous donner une voie à suivre, c'est un des éléments. Hein. Le citoyen consommateur a le droit, sans caractère infractionnel, de protéger légitimement, concrètement par des protections, mais aussi physiquement, son compteur électrique contre les intervenants. Voilà une piste.
Alors, bon, moi je me demande, la politique d'Enedis, c'est un petit peu le pot de fer contre le pot de terre, car finalement, malgré les risques encourus que nous développerons la semaine prochaine, d'ailleurs avec vous, eh bien risques justement dénoncés par votre collectif, Pierre-Rose, bon, peut-on le refuser? Peut-on dire non, arrêtez, moi je ne veux pas? Je crois savoir que même le maire de la commune n'a pas son mot à dire.
Alors, bien sûr, au niveau des particuliers, on peut le refuser, contrairement à ce qu'affirme UFC Que Choisir, qui a fait un dossier intéressant dans certains domaines, mais pas dans celui-là. L'objectif des associations et collectifs, qui se créent d'ailleurs, de refuser collectivement et individuellement le nouveau compteur. Alors, il faut préciser un point important. Ça, c'est une réponse de Enedis qui dit « Les compteurs appartiennent aux collectivités territoriales et sont exploités par l'ERDF ». Donc ça veut dire que Enedis le reconnaît. La commission de régulation de l'énergie dit la même chose. Et ceci, c'est valable depuis 2005. La commune peut donc agir, même si la compétence distribution de l'électricité a été transférée. C'est tout de même une bonne nouvelle pour s'opposer, entre autres, à l'arrivée des compteurs Linky. A contrario, les communes qui risquent vont risquer de sérieux problèmes si elles n'ont pas voulu ou si elles n'ont pas pu s'opposer à l'arrivée des compteurs Linky. En effet, les élus, et donc le maire, vont être responsables des dommages causés par le Linky.
Alors, donc on verra. De toute façon, vous interviendrez plusieurs fois parce que cette pause du compteur Linky intéresse vraiment tout le monde, hein, puisque nous allons tous y passer. Ouais. Nous serons au moins une fois tous sollicités par Enedis, donc pour la pause de ce compteur. Donc, c'est un dossier qu'on suivra dorénavant de façon régulière sur Radio Plus. Alors, Pierre-Rose, la pause de ce compteur est-elle à charge du client? Et si vous me répondez non, cela veut-il dire que le déploiement de ce compteur sera gratuit pour les foyers?
Alors, c'est vrai, en théorie. Il y a 35 millions de compteurs électriques dans l'Hexagone. Ceux qui sont en place fonctionnent très bien et finiraient à la poubelle si on met les nouveaux Linky. Ce programme de remplacement coûterait officiellement entre 5 et 7 milliards d'euros. Une étude de la société Capgemini a conclu à l'équilibre financier, mais le coût brut total a été sous-estimé et la durée des compteurs a été estimée de façon fort optimiste à 20 ans. Ce sera plutôt moins de 10 ans. Alors, qui paiera le différentiel? Question. D'autre part, le coût du compteur Linky sera amorti sur plusieurs années, c'est-à-dire sur les factures d'électricité.
Bien sûr, et c'est toujours nous qui paierons. Alors, grâce au compteur, mon fournisseur et le distributeur, vous l'avez dit tout à l'heure, pourront donc connaître mes habitudes de consommation, Pierre. Alors, Skins, bon, finalement, ça, vous l'avez dénoncé tout à l'heure, mais finalement, ça serait pas très grave en soi, puisque de toute façon, nous sommes espionnés de toutes parts, hein, et par Internet, et par les casiers supermarchés, on en passe, mais c'est vrai qu'on est espionnés. À chaque fois qu'on tape quelque chose dans Google, nous arrivent des publicités concernant le produit qu'on recherche, etc., etc. Mais alors, est-ce que pour vous, c'est un point négatif de pouvoir être connu pour nos habitudes?
C'est ça tout le problème. C'est effectivement, c'est par l'intermédiaire des appareils connectés comme le compteur Linky, nos habitudes sont observées, analysées, afin de nous proposer, par l'intermédiaire de sociétés commerciales, les produits les mieux adaptés. Elles alimentent les big data, ces fameux big data qui sont des grands consommateurs d'électricité. Donc ça veut dire que effectivement, on sera toujours dans l'optique d'être contrôlé, puis de l'optique de fournir des éléments à d'autres sociétés. D'autre part, ce type de compteur nous rendra vulnérables au cyberterrorisme et au blackout. Et ce type de compteur permettra aux cambrioleurs de connaître en temps réel l'occupation d'un logement.
D'accord. Alors, Pierre-Rose, d'autre part, au niveau tarif, qu'est-ce qui est susceptible de changer avec ces nouveaux compteurs Linky ?
Eh bien, on peut s'attendre à des augmentations. Des exemples en France le montrent. Par exemple, à Carouble, dans le Nord, après l'installation d'un compteur, la facture a été multipliée par 3,5. Les compteurs communicants disjonctent plus vite que les compteurs ordinaires et, comme rapporté dans différents médias tels que l'Est républicain, de nombreux usagers sont obligés de souscrire des abonnements plus élevés, donc plus chers. Contrairement aux anciens compteurs électromécaniques, le Linky consomme de l'électricité. Donc, nos factures vont augmenter.
Bien sûr.
Un autre élément à ne pas négliger, en fonction des choix des abonnés, des tarifs variables seront proposés en fonction d'options choisies par les clients, créant un véritable maquis de prix illisible et dans lequel tout le monde serait perdant à terme, sauf EDF.
Alors Pierre-Rose, très très vite, votre collectif qualifie l'installation de ces compteurs de aberration économique et écologique, et vous aurez bien évidemment l'opportunité de vous en expliquer la semaine prochaine à la même heure. Mais auparavant, peut-être pouvez-vous nous rappeler cette réunion publique d'information très vite ?
Très rapidement, ça se passera à Quérémotte entre Hénin et Vitry, à la salle François Ansart, vendredi 13 octobre à 18h30. Cette réunion d'information sera dirigée par le collectif Linky 62. L'annonce a été relayée à Quéry, Isel, Brebière, Vitry et dans la communauté de communes aux artistes. Et ça fait suite aux réunions et actions qui ont eu lieu déjà à Ablain, Aix-Noulette, Angres, Grenay et Villers-aux-Bois.
Donc,
Le 13 octobre à 18h30
le 13 octobre à Quéry, c'est Quéry-Lamotte je crois.
Voilà, tout à fait.
Quéry-Lamotte qui est une commune située près de...
Entre Hénin et Vitry en Artois.
Voilà, tout à fait. Eh bien, voilà. Merci Pierre et je vous dis à lundi prochain bien sûr parce que là aussi il y a encore beaucoup, beaucoup à dire. Ouais. À lundi prochain à la même heure Pierre.
À lundi prochain et merci pour cet appel.
Voilà, on en saura plus, bien sûr, toujours avec Pierre-Rose la semaine prochaine. Alors d'ici là, portez-vous bien. Et cette émission, vous savez que vous pouvez la réentendre en podcast sur notre site. Tout de suite, si vous le voulez bien, on poursuit ensemble avec musique et chansons. Et Kaléidoscope, c'est après la petite page de publicité.